Les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur REC 103.7. Si vous nous rejoignez, bienvenue donc dans notre studio pour les chemins de traverse en compagnie aujourd'hui de Jean-Pierre Schirer. Jean-Pierre, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, merci.
Pas trop difficile hein, d'arriver, je le dis tout le temps, pas trop difficile d'arriver chez nous un samedi matin ? Vous êtes du coin ?
Alors, c'est pas du tout difficile parce que le marché est à quelques pas et donc je viens tous les samedis au marché, donc voilà, bon, je vis en promeneur.
Vous êtes botaniste,
oui.
Vous êtes en tout cas à la botanique, à l'agronomie. Quand on arrive sur un marché comme ça, comme celui de Chauvigny, je pense qu'il y a des stands, des étals qu'on regarde en priorité.
Alors, pas forcément. Ah. Pas forcément. Les stands en priorité, ce sont les producteurs locaux, parce que beaucoup, je les connais humainement, personnellement, et donc le plaisir de les voir. Il y a la dimension humaine qui va être importante sur un marché.
Écoutez, je suis très heureux. Moi, je vous connaissais par rapport aux émissions que vous faites sur ici Poitou. Je ne savais pas que vous étiez sur Chauvigny, pour tout vous dire. Et là, ça me fait très plaisir de vous avoir pour ce matin. Ça fait combien d'années maintenant que vous êtes sur Chauvigny ?
Je suis dans ma 36e année.
Ah oui,
je suis arrivé fin août 90.
Et vous êtes originaire de quel endroit sinon ?
J'ai grandi en Haute-Savoie. Ouais. Et comme mon nom l'indique, je suis originaire d'Alsace. Enfin, ma famille était de la frontière allemande côté. Voilà.
Ah oui, originaire des régions un peu plus froides.
Voilà.
Et vous êtes venu ici par.
Pour le travail.
Pour le travail. On vient ici pour le travail ou pour le cœur, généralement.
Oui.
Pas forcément pour le climat, parce qu'on est dans un climat tempéré, mais c'est vrai qu'on est pile poil entre le sud et le nord de la France. Le climat, justement, on en parle actuellement. Il y a pas mal d'évolutions de ce côté-là. Il faut être pessimiste, il faut être optimiste. On peut se dire que ça va.
Alors, je suis un optimiste incorrigible, faut le savoir. Voilà. Et bon, bien sûr, les plantes ont beaucoup d'avance. J'ai entendu ce matin, on parlait qu'avec quelques visiteurs du marché, que l'aubépine a 2 semaines d'avance.
Ouais.
Voilà. Donc, effectivement, ça donne de la précocité. Puis, il y a une autre préoccupation, c'est l'eau, que nous avons eue en surabondance en février et qui est maintenant préoccupante. Parce qu'il ne tombe pas d'eau et puis il n'y en est pas annoncé.
Exactement, et c'est vrai qu'au niveau des réserves, on en parlera peut-être tout à l'heure si vous voulez bien, au niveau des réserves d'eau justement en été, on parle des bassines souvent, la nouvelle agriculture, je ne sais pas si c'est un domaine qui vous intéresse et qui vous passionne, on essaiera d'aborder le sujet. Il y a beaucoup de choses à voir dans votre domaine. Vous avez fait des études par rapport à votre passion en botanique, en agronomie ?
Alors, botanique, bizarrement, non. Je suis pur autodidacte. Et agronomie, oui, au lycée agricole, en Corrèze d'abord et dans les Landes après.
En Corrèze, ça tombe bien. Tiens, on a nos amis aujourd'hui
d'Argentat
qui sont là, nos amis de la radio d'Argentat, qui sont là parmi nous. C'est la radio ACX qui vient nous rendre visite. On les aura peut-être tout à l'heure d'ailleurs en studio, on verra. Argentat, donc, vous êtes du côté d'Objat, je crois.
Oui.
En Corrèze, moi j'étais du côté d'Aigleton. Un climat aussi là, un peu différent de celui de la Vienne. Par rapport aux régions, justement aux différentes régions, on a des adaptations différentes pour le milieu agricole au niveau des terres, en fait, je veux dire de l'entretien des terres et autres.
Alors, la différence, c'est la précocité, c'est-à-dire le démarrage en végétation va avoir jusqu'à un mois d'écart entre les zones avec un peu de relief ou un peu de montagne et la plaine, le climat océanique, dès qu'on franchit la Loire aussi, et donc ça va décaler les activités agricoles, voilà, qui peuvent aller jusqu'à un mois d'écart.
Ah oui, donc pas mal de différences en fonction.
Bien sûr.
Vous êtes intéressé à ce milieu depuis votre plus jeune âge, je suppose.
Oui.
Une raison particulière, des grands-parents, un papy, quelqu'un qui aurait pu vous...
J'avais une envie, c'était d'être dehors.
D'accord.
Et de ce côté-là, je suis comblé parce que je suis très souvent dehors. Donc voilà, je ne me voyais pas travailler un jour dans un bureau. Et donc une activité qui me permette d'être très branché sur ce qui se passe en extérieur, la flore, le climat, la nature. Voilà.
Exactement. Vous êtes comme moi, on a un certain âge. Un âge, alors avancé peut-être pas, mais un certain âge en tout cas. Vous êtes peut-être papy, vous déjà, non ? Non, pas encore. Vous auriez pu être papy. Vous êtes en tout cas enseignant. Ça, c'est important.
Oui.
Enseignant, le fait de transmettre, c'est important.
Ah oui, c'est essentiel. Essentiel, c'est même la partie la plus épanouissante de l'activité.
Ça fait combien d'années maintenant que vous êtes à Chauvigny, à la MFR ?
Alors, j'étais pendant 35 années à la MFR, voilà. En sachant que mon activité était assez particulière parce que j'avais très peu de cours, pas beaucoup d'élèves. J'intervenais essentiellement en formation pour adultes. Une grande partie de mon activité consistait en des interventions extérieures, essentiellement en France, dans beaucoup d'organismes, beaucoup de régions, quasiment toutes les régions de France, et un peu en Espagne.
Exactement, et puis des voyages à l'étranger, on en parlera aussi tout à l'heure peut-être,
oui.
en Afrique et en Asie. c'est ça?
Pas Asie. Continent africain, Sénégal, Tunisie, Maroc et Égypte, le dernier, et au Mexique.
Là, c'est quoi? C'est donc Amérique du Sud plutôt. Mais là, l'idée, c'était quoi au départ? C'était une volonté pour vous d'aller, de partir à l'étranger, de connaître un peu ce qui se passe à l'étranger?
Non, je ne faisais que répondre à des demandes.
C'est
jamais moi qui ai suggéré, qui ai demandé, mais c'est des demandes qui m'étaient formulées, auxquelles je répondais positivement. D'abord parce que je le pouvais, et puis ensuite parce que c'était une opportunité d'apprendre, de découvrir des choses nouvelles pour moi.
Ça, on voit que vous êtes souvent sur les routes, peut-être pas, dans les champs en tout cas, en France ou à l'étranger. Ça n'a pas été évident pour avoir une vie de famille.
Alors, quand mes filles étaient petites, c'était plus ennuyeux. Ouais. J'en faisais moins, je vous cache pas que j'en faisais moins à l'époque. Aujourd'hui, elles sont grandes et autonomes, donc c'est beaucoup moins gênant aujourd'hui de partir régulièrement.
Exactement. Vous êtes autodidacte, on disait tout à l'heure aussi.
Pour la botanique, oui.
Pour la botanique, autodidacte. Ouais. On se nourrit de ses erreurs, je pense que c'est
totalement.
Un peu le cas que... C'est un peu le cas aussi de l'agriculteur aujourd'hui. On s'aperçoit que peut-être qu'on a fait des erreurs et qu'aujourd'hui on est en train d'essayer de faire en sorte de compenser, de les rattraper.
Oui, bien sûr. Alors ces erreurs, dans le monde agricole, elles sont liées aussi à des informations qui ont pu être données, ne serait-ce que quand les agriculteurs étaient eux-mêmes en formation, et des informations un petit peu simplistes ont pu être données, et qui font que ça peut se traduire par des erreurs qui sont corrigées aussi aujourd'hui.
Exactement, on apprend de ces erreurs.
Bien sûr.
On apprend aussi en partageant, vous êtes allé à l'étranger. Qu'est-ce que vous apportez justement ces voyages à l'étranger, en Afrique principalement, au niveau de votre relation aujourd'hui avec la terre? Les sols sont différents, qu'on soit en France, je suppose, ou au Sénégal ou ailleurs. Vous avez pu apprendre justement ces expériences?
Alors bien sûr, on apprend toujours, parce que effectivement les contextes sont différents. Les contextes déjà climatiques, les sols, on va retrouver des choses qui peuvent être assez similaires, mais dans des contextes climatiques totalement différents. Donc les repères par rapport aux saisons sont très très différentes. Et puis l'organisation même des formations agricoles est très très différente.
On l'a dit, vous êtes agronome, vous êtes botaniste.
Oui.
L'agronomie, c'est quoi exactement la définition? Si vous deviez expliquer à un enfant de 10 ans ce qu'est l'agronomie.
Alors, c'est tout simplement apprendre à connaître sa terre, connaître son sol, pour en déduire les pratiques qui seront les mieux adaptées, les plantes qui se sentiront le mieux dans ces sols-là. Voilà, c'est ça qui est important.
Ça, c'est pour l'agronomie. La découverte. Vous enseignez d'ailleurs, on va peut-être en parler, vous faites des conférences régulièrement.
Oui, oui.
Une prochainement, demain, je crois.
Alors une cet après-midi.
Cet après-midi plutôt.
Cet après-midi à la Maison de la Forêt de Montamizé. Et puis j'en ai fait déjà et j'en ai programmé jusqu'au mois de septembre.
C'est la belle saison là, pour en profiter, pour s'intéresser à la nature. Les gens sont plus intéressés à la nature quand on arrive justement au printemps. On est plus à l'extérieur que l'hiver, non?
Alors pour les sorties botaniques, oui. Les sorties botaniques deviennent plus intéressantes à partir du printemps, même si j'en ai pu en faire un petit peu en hiver aussi. Mais les conférences, dans la mesure où elles sont dans un milieu en salle, là c'est toute l'année.
On peut vous retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux très fréquemment.
C'est possible.
Et oui, on en parlait en antenne tout à l'heure. Vous n'êtes pas réseaux sociaux, vous n'êtes pas Facebook et autres, on vous voit pourtant, on peut avoir partager votre expérience en fait sur les réseaux sociaux. J'ai pu le faire en préparant cette émission. Qu'est-ce qui vous déplaît dans le fait des réseaux sociaux par rapport à votre passion? Parce qu'on peut se dire qu'après tout, transmettre, c'est une façon de le faire aussi par ces réseaux.
Alors déjà, rien ne me déplaît, rien ne me déplaît, mais je n'en vois pas l'utilité, étant donné que les demandes d'intervention, d'animation, de conférences sont largement suffisantes pour que j'ai pas besoin de faire de la publicité ou quoi que ce soit. Donc je me contente de répondre aux demandes positivement, ça fait toujours plaisir, et c'est ça qui est motivant.
On remercie d'ailleurs les gens qui partagent sur les réseaux sociaux vos
c'est possible, vos je regarde jamais.
Oui, ouais. Je comprends bien, mais on les remercie parce que c'est vrai que ça nous permet de vous avoir. Moi je ne savais pas que vous étiez à Chauvigny, pour tout vous dire. Je remercie d'ailleurs Catherine Moulinier qui était la semaine dernière avec son époux. Je la remercie de nous avoir mis en contact, parce que je vous connaissais, puisque vous êtes sur ici Poitou régulièrement depuis combien d'années maintenant?
Je ne sais pas quand j'ai commencé, on va dire à la louche une vingtaine d'années.
Voilà, donc aux côtés de Florian Lévesque ou Aurélie Garcia qui seront prochainement nos invités. Vous êtes sur ici Poitou et je ne savais pas que vous étiez sur Chauvigny, donc j'avais quelques difficultés à vous contacter. Je remercie donc Catherine Moulinier et son époux de m'avoir donné vos coordonnées. On parle d'agronomie, on parle aussi de botanique. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la botanique? C'est un domaine différent, hein?
Alors c'est un domaine différent mais complémentaire. Parce que le sujet qui m'est dans le monde agricole le plus souvent demandé, c'est diagnostic de fertilité des sols à partir de la flore qui pousse à l'état sauvage, ce qu'on appelle les plantes bio-indicatrices. C'est le thème qui est, on va dire une fois sur trois, c'est le thème qui m'est demandé. D'accord. Dans le monde agricole.
Par des professionnels
Par des professionnels, bien sûr, des professionnels, hein, bien sûr.
L'intérêt pour eux, justement, de s'intéresser au sol, on peut se dire qu'ils le connaissent, leur sol, ils sont nés avec ça ou...
Alors, j'ai envie de dire, l'agronomie est le parent pauvre de la formation agricole. Et malheureusement, et je pense qu'il n'y a pas assez d'heures qui soient dédiées à l'agronomie, et notamment l'agronomie de terrain, c'est-à-dire être sur le sol, creuser un trou, faire un profil, observer, et c'est quelque chose qui est malheureusement qui n'est pas majeur dans la formation agricole.
Exactement. J'ai vu que vous étiez pédologue, hein, c'est ça ? C'est de faire des fosses pédologiques.
Alors, la pédologie, c'est l'étude du sol, mais dans un contexte plus global, n'est pas forcément dans un domaine agricole.
D'accord. Voilà. L'idée, c'est pareil, c'est d'aller voir ce qui se passe dessous pour...
Oui, alors la pédologie va être abordée, ne serait-ce que quand il y a des grands travaux ou la construction d'un pont, pour le sol, enfin quand on a besoin d'utiliser le sol pour différentes choses.
Ah oui, c'est
choses.
Vraiment la nature du
voilà,
sol.
Voilà, voilà. Donc c'est le sol en tant qu'organisme, alors que l'agronomie, c'est dans un contexte agricole.
D'accord, tout à fait, avec l'importance d'avoir un sol riche, d'essayer en tout cas de l'enrichir, on va dire, d'une manière ou d'une autre, peut-être, non ? C'est pas forcément évident, mais par rapport à cela, quand on arrive, moi j'habite à un endroit, c'est à l'appui. On a des terres qui s'appellent des terres à grenouilles. Hein. On a de l'eau l'hiver et l'été, c'est sec, c'est de l'argile au bout de 5 cm. Ce genre de choses dont vous vous occupez, on peut enrichir ces sols-là ?
Alors, le mot enrichir est à prendre avec nuance. Hein. Ça peut être bizarre ou provoquant ce que je veux dire, mais un bon sol n'est pas forcément un sol riche. Imaginez, je ressors du marché de Chauvigny. Imaginez que je sois parti au marché de Chauvigny ce matin avec un lingot d'or. Je peux me considérer comme riche parce que ce lingot d'or vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Sauf que je reviendrai du marché avec mon sac vide parce que personne ne voudra me rendre la monnaie sur mon lingot d'or. Dit autrement, la richesse, c'est la capacité à faire des échanges. Et non pas quelque chose qui en soi-même va se donner une valeur, vous comprenez ? Et donc la capacité à faire des échanges dans un sol repose sur l'activité racinaire, beaucoup sur l'activité microbienne, biologique des sols. Et c'est ça qui va faire que les plantes vont pousser d'une façon satisfaisante.
Et l'idée par rapport à ce sol, je n'avais pas prévu de poser la question, mais ça tombe bien. J'ai dans mon jardin des lauriers en fait, hein, que j'ai plantés. Pareil, hein, toujours le problème des racines dans l'argile. Et je m'aperçois qu'en fait, ça noircit, la feuille noircit. Il y a un moyen de faire ? Il faut que je déracine tout ça, que je fasse un trou avec de la terre, changer l'environnement
Alors ce qui est compliqué, hein, c'est que dans un sol... Hein, la dimension chimique, ça se résout, c'est-à-dire qu'on peut toujours corriger des défauts chimiques du sol. La dimension physique, ça se résout. La dimension organique, ça se résout. Mais la dimension hydrique, c'est la plus compliquée. Dans le monde agricole, entre une bonne et une mauvaise année, c'est pas une année où j'ai bien ou mal travaillé. C'est toujours une histoire de climat. Elle qui tombait de l'eau, en quantité suffisante, bien répartie. Et donc, comment se comporte le sol par rapport à l'eau, c'est vraiment la problématique majeure, parce que c'est la plus compliquée à corriger.
On va se faire une petite pause musicale, tiens. On parle de plantes, hein. Alors certains vous appelleront ça les mauvaises herbes, d'autres appellent ça de la saloperie, hein, tout simplement. Vous avez un terme particulier, vous, pour la mauvaise herbe, c'est les plantes adventices, je crois, hein.
Oui, alors, on peut en parler si vous voulez.
Oui, on peut en parler maintenant.
Alors, déjà, le mot adventice et le mot mauvaise herbe, dans les deux cas, ne sont pas très appropriés. Uh-huh. Étymologiquement, adventice veut dire qu'il vient de l'extérieur. Or, ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qu'on vient de semer. N'est-ce pas ? Le mot mauvaise herbe voudrait dire plante qui n'a pas d'usage ou voilà. Et il est considéré d'une façon un peu simple, voire simpliste, que toute herbe qui pousse sur le même terrain que là où j'ai semé ou planté est de fait une concurrence sur l'eau, la lumière et les minéraux. Ça, c'est de la théorie, mais qui n'est pas validée par la pratique. En ce sens que certaines plantes, oui, effectivement, sont concurrentielles. Il faut les identifier et ne pas les laisser se développer, hein, s'en débarrasser. D'autres plantes ont une nuisibilité assez nulle. Et il y a d'autres plantes qui ont plutôt un effet positif, hein, sur les plantes et nos cultures. Et donc, la logique d'élimination qui voudrait que tout doit disparaître, c'est très bien en théorie, mais la pratique ne le confirme pas.
D'accord. Ben écoutez, on va revenir sur le sujet juste après cette pause musicale. Je parlais justement de la langue française qui est riche, très très riche, et justement, et ça tombe bien, on va écouter tiens, Yves Duteil qui nous chantait La langue de chez nous il y a quelques années.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment. Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre, elle offre les trésors de richesses infinies, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
Nous sommes toujours sur ROC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie de Jean-Pierre Scherrer, hein, pour parler d'agronomie, pour parler de botanique. On parlait à l'instant de mauvaises herbes, hein, de plantes adventices. Vous expliquez que chaque plante avait un intérêt. On peut se poser la question quelquefois. On parlait ce mois avec mon épouse ce matin d'orties. J'ai vu que vous avez fait un livre sur les orties et elle me disait « Demande-lui comment se débarrasser de ces saloperies parce qu'on a plein le terrain. Il y a une solution. »
Alors, l'ortie est une plante à rhizome, hein, c'est-à-dire qu'elle se déploie pas seulement par les graines. Hein, ouais. La germination des graines d'ortie n'est pas extraordinaire, c'est de l'ordre de 10%. Par contre, elle fait des rhizomes, donc une plante qui part à l'horizontale. Il suffit qu'elle ait germé une fois, et puis après, elle va donner une touffe. Par contre, c'est pas très compliqué de tirer sur les rhizomes, hein, comme sur un câble, et puis de l'enlever. La terre sur laquelle a poussé l'ortie sera une très très bonne terre pour faire d'autres plantations.
D'accord, donc l'idée c'est de bêcher si on ne veut pas mettre les mains dedans, et puis d'aller au plus loin pour récupérer ce rhizome. Quoi.
Oui, alors le rhizome n'est pas très profond, hein, voilà. Donc il faut quand même mettre une paire de gants, c'est souhaitable, et puis l'enlever, et puis la laisser en paillage, c'est un excellent paillage.
Combien de mètres pour un rhizome autour de la plante?
Alors un rhizome peut faire jusqu'à 12 mètres par an, en longueur.
Ah oui, donc il faut aller chercher quand même.
Voilà, et j'ai envie de dire en longueur, je parle, hein, donc c'est pas en profondeur. Et pire sont les conditions, plus elle fera de rhizome. En ce sens que quand il fait très sec, bah, le rhizome va chercher un peu plus de fraîcheur, donc faire plus de longueur pour compenser l'hostilité du milieu.
On parle alors je parle toujours de mauvaises herbes, hein, parlez-moi du terme, mais quand vous arrivez sur un terrain, qu'un agriculteur a besoin de vous, il vous appelle généralement pour justement connaître son sol, pour essayer d'apporter des remèdes. Lui, la première chose qu'il va faire, c'est essayer de dire, bah, écoutez, moi j'ai tout ce que je veux, des pesticides, des produits et autres. C'est le genre de choses que vous utilisez, que vous lui conseillez, ou alors il y a d'autres solutions de se débarrasser de ces plantes?
Alors, en aucun cas, déjà, mon activité, c'est de la formation, c'est pas du conseil. La formation, c'est-à-dire que, pour moi, la formation, l'éthique que je me donne, c'est que la formation doit donner de l'autonomie aux gens. Si on donne un conseil, on ne rend pas les gens autonomes. On leur donne un conseil. Et quand on n'est plus là, il n'y a plus personne pour répondre aux questions. Former les gens, ça leur permet de répondre eux-mêmes aux questions qu'ils se posent. Et donc, c'est ça qui m'anime essentiellement. C'est-à-dire que je ne vais jamais chez une personne donner un conseil. Je vais rencontrer des groupes d'agriculteurs fédérés par une problématique commune. L'après-midi, nous irons chez un ou deux ou trois parmi les participants pour aller sur le terrain, pour mettre en pratique ce qui aurait été dit en théorie le matin, et de manière à permettre aux gens chez lesquels on n'est pas allé de mettre en application ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un contexte de formation, et c'est le côté très noble à mon avis, hein, de ce métier-là, c'est-à-dire rendre les gens autonomes.
D'accord, donc les former plutôt que les conseiller.
Exactement.
Exactement, ce que vous faites avec les jeunes aussi. Un jeune aujourd'hui qui voudrait se lancer peut-être, non, ça va être un peu plus compliqué, donc je pense que
Alors, il y a quelques années. J'interviens très très rarement. Alors, quand vous dites les jeunes, on va dire les gens qui sont en formation initiale,
oui,
il est rarissime que j'intervienne auprès d'eux. Ça arrivera peut-être une fois dans l'année. Moi, j'interviens avec des gens, ou bien des porteurs de projets, mais adultes, ou bien beaucoup plus couramment avec des gens déjà installés depuis des fois pas mal d'années.
D'accord, je pensais à la maison familiale rurale, à la MFR. Je pensais justement que c'était quelque chose qui était destiné aux jeunes, en fait. Je ne connais pas spécialement l'organisme. C'est pour ça que je vous parlais de formation et d'enseignement par rapport
moi,
à...
Moi, je n'interviens qu'avec des adultes.
Avec des adultes, c'est des gens qui sont installés, qui ont besoin justement de...
Voilà, et j'interviens aussi au CFPPA de Venour.
Exactement, le lycée agricole.
Mais uniquement pour les BPROA, donc les gens qui sont en formation adulte, et puis avec les modules plantes aromatiques et médicinales.
J'ai cru voir aussi que vous aviez été intervenu auprès de l'INRA, non ?
Oui, alors avec l'INRA, j'ai fait des conférences.
Ouais.
Des conférences à leur demande, voilà.
D'accord, donc l'INRA, pareil, pour connaître la nature des sols,
non, c'était botanique.
Botanique uniquement.
Avec l'INRA, c'était uniquement botanique. Et je précise que j'interviens beaucoup avec l'espace Mendès France de Poitiers sur de très très nombreuses animations botaniques. Voilà. Et notamment, c'était en lien avec l'espace Mendès France de Poitiers qu'il avait mis en relation avec l'INRA.
D'accord, on rappelle que cet après-midi, hein, vous faites d'ailleurs une conférence à la Maison de la Forêt.
À Montamisé, sur le thème l'intelligence des plantes.
Avant que j'oublie, vous allez d'ailleurs aussi très prochainement être du côté de nos amis de Jouer, hein, La Bonne Idée,
oui.
Avec Catherine,
oui.
et Laurent, donc pour là aussi, alors une conférence peut-être pas, mais une balade en tout cas.
Les choses ne sont pas encore très très précises, hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va travailler ensemble à partir du mois de juillet prochain, et la porte est ouverte à de très nombreuses possibilités, animations, enfin ça sera de toute façon beaucoup en extérieur. Alors animation botanique, ça peut être autour de la plante tinctoriale, hein, comment extraire des couleurs à partir des plantes, ça peut être le côté consommation des plantes comestibles en manger et en boisson. Ça peut être aussi à partir de plantes, on va dire, médicinale, mm-hmm. Voilà. Donc c'est tout ça qui est possible, et l'avantage avec la belle idée, hein, Catherine et Laurent, c'est qu'ils ont un domaine qui est très joli, qui est grand et qui laisse beaucoup de possibilités. Voilà, pour faire des animations très variées.
Exactement,
et très motivantes.
Un bel endroit qu'on vous conseille de découvrir avec des expositions et autres, voilà, qui demande à se développer. On avait, donc, vous pourrez réécouter le podcast, on avait Laurent et Catherine la semaine dernière ici même en studio. On parle de botanique, on parle d'agronomie, hein, votre passion, votre métier. Vous êtes autodidacte, on le disait, en botanique. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la botanique ensuite? Alors justement, en tant qu'autodidacte, c'est pas évident, hein, de se lancer comme ça dans une passion et d'en faire un métier pratiquement.
Alors, un métier, c'est une certitude. Ce qui m'a amené, c'est la curiosité qu'ont les gens. Je me suis rendu compte que dès qu'il était question de ces sujets botaniques, eh bien, c'est comme si ça faisait émerger des curiosités latentes chez les gens qui vont s'exprimer parce que on fait des propositions. Et de plus en plus, on m'a demandé au départ des sorties botaniques, puis des conférences sur des thèmes très variés. On m'a posé des questions auxquelles je répondais « je ne sais pas ». Et comme on ne se contente pas de cette réponse-là, on va trouver les réponses de manière manière à ce que la fois d'après on puisse apporter une réponse. Et puis toute cette curiosité qui m'a environné, qui a fait que j'ai dû acquérir des compétences pour pouvoir répondre positivement à ces demandes, et qui ensuite ont fait plein de petits, parce que l'intervention c'était au départ local, et puis ensuite départemental, régional, national, et puis même international maintenant, quoi.
Vous êtes intéressé à toutes les plantes, toutes vous intéressent, ou il y a plus un domaine particulier, je pense.
Alors, il y a un domaine qui n'est pas le mien, c'est l'ornemental.
Voilà.
L'ornemental, c'est-à-dire une jardinerie, assez peu a attiré mon attention. Les très très jolies fleurs avec plein de couleurs qui sont un petit peu exotiques, voire artificialisées, non pas trop. L'ornemental n'est pas mon domaine.
Voilà, exactement. Donc on va parler du reste des autres plantes.
Moi, c'est les plantes sauvages, voilà.
Voilà, toutes ces plantes sauvages justement ont un rôle à jouer. On peut y retrouver un intérêt véritablement.
Alors énormément d'intérêt, hein, c'est-à-dire que quand on dit qu'une plante a un intérêt dans le domaine comestible, médicinal, aromatique, tinctorial, il est très rare qu'une plante ne coche pas une de ces cases-là. C'est rarissime. Et si elle ne le coche pas, elle aura un autre intérêt, c'est que ça permet, je vous disais, de faire des diagnostics de sol. Hein. Simplement, un jardinier, dans son jardin, il va voir pousser des plantes spontanément. Il va se dire, bien sûr, il faut que je les enlève. C'est les, comment vous dites, saloperies, n'est-ce pas? C'est le mot utilisé. Et je veux dire, mais pourquoi pas? Mais avant de faire ce geste-là, se dire, mais au fait, cette plante, elle me révèle de l'information sur mon sol. Il est intéressant de savoir qu'est-ce qu'elle me dit. Et quand on a toutes ces informations-là, ça permet de connaître son sol de façon très, très positive et d'en déduire des pratiques qui sont les plus adaptées.
Un sol qui, par exemple, parliez tout à l'heure de l'aubépine qui est en avance cette année, un sol plein d'aubépine, plein de buissons d'aubépine, puisque c'est des buissons, c'est une caractéristique, c'est dû à quoi? C'est il y a une raison particulière?
Le biotope des aubépines et de toutes les rosacées, c'est des plantes qui adorent, on appelle ça en écologie des plantes forestières, c'est-à-dire de l'humus. Des plantes qui ont volé un sol très riche en humus.
D'accord, et donc l'intérêt c'est de... On peut s'en débarrasser facilement.
Alors s'en débarrasser c'est une autre chose, hein. Bien sûr qu'on peut s'en débarrasser, après c'est des arbustes, hein, donc c'est pas facile. Par contre l'aubépine a deux intérêts, c'est un intérêt, j'en parlais ce matin avec un apiculteur au marché de Chauvigny qui était tout content de me dire ça y est l'aubépine a démarré, et les producteurs de plantes médicinales sont très très à la recherche de fleurs d'aubépine qu'ils vont mettre dans des tisanes apaisantes du système nerveux.
D'accord, donc vraiment tout un intérêt.
Ah oui.
Ce qu'on appelle l'épine noire, c'est l'aubépine aussi?
Non, c'est le prunelier.
D'accord.
Le prunelier, qui vont donner des prunelles, qu'on peut utiliser en plantes tinctoriales, qui vont donner des jolis tons de bleu-violet, et puis bien sûr dont on fait la fameuse pousse d'épine.
Exactement. Oui, moi qui ne bois pas de voilà. Très peu, en tout cas, de pousse d'épine, j'y trouve un peu d'intérêt. C'est vrai que j'en parle parce que j'en ai aussi, en plus des orties, dans mon terrain, on en a énormément, donc c'est vrai que c'est assez, assez compliqué. On va se faire une pause musicale, tiens. On a nos amis d'une radio d'Argenta, en Corrèze, qui sont dans les studios actuellement, radio ACX. On va passer une chanson, tiens, pour l'occasion, une chanson corrézienne. Hein. On va remonter à nos souvenirs avec Trois Cafés Gourmands, tout simplement.
Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle?
Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin.
Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme.
Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur.
Acheter des tableaux
et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler.
Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre,
un peu patriotard.
Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région,
c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession.
Je l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un vernis Chabrol,
un petit goût de gnoll.
Les yeux de nos grands-mères,
la voix de nos grands-pères,
l'odeur de cette terre,
vu sur les monétières.
C'est pire qu'un testament,
au-delà d'une convidence. On est des petits-enfants de ce joli coin de France.
En
suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi, sers-nous à boire,
on a les yeux qui brillent.
Papaya, papaya, papaya.
J'ai la Corrèze en cathéter.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi, sers-nous à boire,
on a les yeux qui brillent.
Nous sommes toujours sur ROC 103.7 et les chemins de traverse avec Jean-Pierre Scherrer. Nous parlons d'agronomie, nous parlons de botanique. On parlait tout à l'heure de plantes, alors non pas ornementales, hein, j'ai bien compris que c'était pas votre intérêt. Votre intérêt, ce sont
les plantes sauvages.
Les plantes sauvages, tout simplement. Justement, par rapport à ces plantes sauvages, on parlait de l'utilité. On va aborder un peu le sujet de la distillation de ces plantes, des huiles essentielles. Oui. On arrive aujourd'hui à avoir, au moins sur nos territoires, des huiles essentielles pour tous les remèdes, on va dire, que ce soit en médecine, que ce soit aussi pour les parfums. C'est un domaine qui vous intéresse, ça.
Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est le principe de la distillation, déjà parce que c'est quelque chose de magique et c'est une façon pour des personnes, je pense dans le monde agricole, hein, qui font de la production de plantes aromatiques ou médicinales, de faire de la valeur ajoutée sur certaines plantes et de commercialiser les eaux florales, éventuellement selon la taille du matériel, des huiles essentielles.
Exactement, donc des huiles essentielles, hein, qui peuvent servir donc à la parfumerie, on en voit pas mal du côté de Grasse ou d'ailleurs, qui peuvent servir au côté médicinal aussi. Oui. On a tous en tête une huile essentielle pour guérir tel ou tel remède. Il y a vraiment un intérêt médicinal ou c'est plus du remède de grand-mère ?
Alors, il y a un intérêt médicinal qui est majeur. Après, il faut penser que l'huile essentielle, c'est un concentré de principes actifs. Et donc, il faut être très précautionneux quant à l'utilisation. C'est vraiment quelques gouttes. C'est pas destiné à des enfants de moins de 7 ans. Donc, c'est un remède qui est extrêmement fort. Hein, donc, qui demande beaucoup de prudence sur l'utilisation.
La plante essentielle de nos régions, enfin l'huile essentielle de nos régions avec une plante commune, ce serait quoi pour vous?
C'est alors, je vais vous en citer plusieurs. Hein, si on vraiment pensait plante locale, hein, de chez nous, la carotte sauvage, hein, qui va exploser au mois de fin juillet et au mois d'août, hein, qu'on va voir pousser à l'état sauvage un peu partout, on peut la récolter des ombelles, la distiller, on est vraiment quelque chose de très local. On a aussi l'orient qui va pousser chez nous, hein, à l'état sauvage, qui est facile à récolter, distiller. Vous évoquez le laurier, le laurier de chez nous a une très très bonne valeur en tant que huile essentielle, donc les plantes sont nombreuses, hein, qu'on peut distiller, plantes qu'on va trouver de façon commune sur nos territoires.
On parlait tout à l'heure d'aubépine, je ne sais pas s'il y a un intérêt par rapport à l'aubépine ou par rapport à l'aiguille noire aussi. Alors pourquoi pas, on s'en sert comme alcool.
Non, ça ne se distille pas, non.
Toutes les huiles essentielles, enfin toutes les plantes peuvent donner un alcool en étant distillées.
Alors non, du tout. Hein. Déjà, le mot huile essentielle, l'essence, c'est un principe actif qui est dans les plantes. Toutes les plantes en contiennent plus ou moins. Mais certaines plantes, on obtiendra non pas l'huile essentielle, mais ce qu'on appelle de l'eau florale. Je vous donne un exemple. Hein. Les roses, il y a probablement des rosiers, hein, sur votre jardin. On peut très bien distiller le pétale de rose, mais sachez que le rendement en huile essentielle est de l'ordre de 1 pour 4000. C'est-à-dire que, vous voyez, il faudrait énormément de pétales de rose pour obtenir un petit peu d'huile essentielle. Par contre, on obtiendra une eau florale qui est très, très agréable, que les gens vont utiliser pour la peau et qui va être très recherchée.
Je peux avoir un appareil pour distiller chez moi ou c'est véritablement réservé aux professionnels?
Alors, on a tout à fait le droit, à condition de préciser que ce matériel ne sert pas à faire de l'alcool. Et un matériel qu'on appelle un hydrodistillateur et que de langage populaire, on va dire un alambic, bien sûr, tout le monde peut l'avoir chez soi. Simplement, on ne fait pas d'alcool avec.
Vous avez sûrement, je suppose, un alambic chez vous.
Plusieurs,
certainement.
Oui.
Pour y avoir aussi des herbiers, hein, puisque vous vous intéressez aux plantes. Je suppose que c'est aussi un domaine qui vous intéresse. Tout ce qui est collection, vous avez une collection d'herbiers ou autre pour garder un souvenir de ces plantes, une connaissance,
Si je le fais, encore une fois, c'est dans des cadres de formation.
Oui.
Dans des cadres pédagogiques, parce que les gens qui disent « mais moi je m'intéresse aux plantes, j'ai envie de connaître la botanique », identifier une plante n'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de s'en souvenir, de se souvenir du nom. Et pour s'en souvenir, ce nom, il faut lui donner un sens. Et donner un sens, pour certaines personnes, ce sera faire un herbier. D'ailleurs, Catherine, que vous avez eue la semaine dernière, elle commence son herbier. Et je fais confiance à ses talents artistiques, hein, pour faire quelque chose de vraiment très joli. C'est un très bon moyen pour mémoriser le nom d'une plante. Et puis, sinon, bah, y a d'autres moyens pour mémoriser les plantes. Mais toujours donner un sens à ce nom.
Écoutez, vous venez de me rappeler, hein, le nom de la plante que je cherchais tout à l'heure, hein, c'était l'orchidée, tout simplement. Voilà, qui vous intéresse pas forcément, puisque c'est de l'ornemental, peut-être.
Hein. Non, il y a des orchidées sauvages, hein, qui poussent chez nous. Hein. Il y en a au moins trois qu'on va pouvoir, même quatre, hein, ici sur le territoire chauvinois, qu'on va voir d'une façon presque commune, et qui donnent toujours des architectures végétales absolument magnifiques quand on les regarde de près.
Qui sont des plantes qui sont préservées ou qui sont protégées?
Non, pas forcément, hein, puisque ces plantes sont vraiment communes, donc elles ne font pas l'objet d'une protection particulière.
D'accord, moi j'étais parti sur l'orchidée, forcément, qui nous venait de pays étrangers, de belles orchidées. On a la même chose de plantes.
Bien sûr.
La diversité des plantes, justement, là aussi, chez nous, sur nos territoires.
Ah oui, on a au moins quatre orchidées sauvages qu'on va trouver sur nos territoires, qui sont à chaque fois un émerveillement de les regarder, parce qu'elles sont tellement belles. Mais bizarrement, ce sont des plantes qui peuvent être, j'ai envie de dire le mot commune, sans que ce soit péjoratif.
C'est vrai qu'on a, beaucoup de plantes sur nos territoires. Moi, je me rappelle, ça n'a rien à voir avec les plantes, mais avec les oiseaux. J'ai voyagé au Kenya et je me suis aperçu qu'au Kenya, notamment, vous avez un étourneau qu'on appelle un étourneau magnifique. L'étourneau, chez nous, il est gris. Là-bas, en fait, il est bleu, il a toutes les couleurs. Et j'ai trouvé que dans ces pays qui manquaient d'eau, qui manquaient de tout ce que l'on veut, qui étaient pauvres, les oiseaux se mettaient de belles couleurs. C'est un peu je pensais que c'était un peu le même cas en France, où on avait le soleil, on avait tout ce qu'il fallait, on avait le bon climat, et que les plantes, elles, par contre, ne suivaient pas les mêmes couleurs, en fait, qu'en Afrique, où on a des plantes magnifiques. On trouve en France de belles plantes encore en se baladant dans la nature. Alors vous allez me dire, oui, le coquelicot, oui, tout ce que l'on veut, mais des plantes à découvrir, celles qui vous intéressent le plus?
Alors, oui, il y a de belles plantes, et je vais vous montrer quelque chose, ce n'est pas très radiophonique, mais regardez ce que j'ai à la main.
Ouais. Ah oui, une petite loupe.
C'est une loupe qui grossit 10 fois. Et simplement se promener dans un jardin et de prendre une pâquerette et la regarder à la loupe, c'est un émerveillement extraordinaire de voir comme elle est belle quand on la regarde de près. Un petit géranium sauvage, hein, qui pousse dans les pelouses actuellement largement. L'émerveillement, il est sur les plantes des fois les plus communes, les plus entre guillemets banales. Et tout est sujet à émerveillement. J'évoquais tout à l'heure, hein, la carotte sauvage. Ouais. Quand elle est en fleur, vous la regardez avec une petite loupe, c'est fabuleusement beau.
La carotte sauvage, on la retrouve par rapport à ses feuilles comme une carotte normale.
Enfin, je veux dire, oui, c'est les feuilles de la carotte. Puisque... Oh bah après, elle va monter verticale et donner une ombelle. Et l'ombelle est facilement reconnaissable parce qu'au centre de l'ombelle, il y a une petite fleur d'une couleur rubis, qu'on appelle en botanique un rubis d'ailleurs, et qui, quand on la regarde de près, on dirait du velours. C'est absolument splendide.
Des plantes à découvrir. Donc
totalement.
Quand vous allez vous promener, je suppose que vous êtes un peu comme j'avais il y a quelque temps Michel Cordebeuf, hein, qui est photographe aussi, qui est écrivain, et qui fait aussi du théâtre, qui me disait que lui, quand il allait en balade, bah, ses amis le suivaient de loin parce qu'il était toujours avec un appareil photo. Vous êtes toujours avec la loupe aussi quand vous allez vous balader?
Alors, je l'ai toujours sur moi, déjà parce que ça pèse pas très lourd, hein, oui, c'est pas très encombrant. Et puis, parfois, je peux avoir un doute sur une plante. Parfois, c'est des gens qui vont me demander. Et quand la plante, tout le monde la connaît, et je vous parlais de la pâquerette tout à l'heure, eh bien, vous tendez cette loupe aux gens, disant, regardez-la de près, et là, c'est un émerveillement fabuleux. Je vous donne un exemple, hein, avec l'espace Mendès France, hein, de Poitiers, où je travaille assez régulièrement. On avait fait, il y a 2 ans, je crois, une sortie botanique dans un milieu totalement urbain, et c'était saisissant la diversité qu'on a pu voir, et on a passé 1h30 sans jamais voir le temps passer, de la diversité qu'on pouvait voir sur la fissure d'un trottoir, les petites plantes, et le public était émerveillé de cette richesse qu'on avait et qui était vraiment à notre portée.
C'est vrai qu'on a l'impression, d'ailleurs, quand vous parlez des communes, que les communes aujourd'hui laissent un peu se développer ce type de végétation un peu partout. On traite beaucoup moins qu'avant. Et voilà, c'était un mal pour un bien, en fait, peut-être de laisser ces plantes envahir un peu nos territoires. On a un peu oublié que ça existait.
Bien sûr. Alors le mal, c'est que on va considérer, certains considéreront que c'est pas beau, c'est pas propre. Mais je vous disais, hein, s'intéresser, se dire, mais au fait, cette plante, comment elle s'appelle? Quelle est son étymologie? D'où vient ce nom? Quelle est la sensibilité humaine qui a dit que cette plante devait s'appeler de cette façon-là, voire éventuellement quelques utilités ou de simplement le côté esthétique, eh ben on peut se rendre compte que la richesse, elle est vraiment à nos pieds.
Exactement, la richesse est à nos pieds. Ça me permet tiens, de lancer une dernière pause musicale tiens, avec Francis Cabrel et Gauvin Serre qui nous parlent des boulevards de l'enfance. On a la chance en France d'avoir un territoire magnifique. On l'oublie souvent par rapport à ce qui peut se passer à l'étranger. Donc cette chanson nouvelle d'ailleurs, hein, Boulevard de l'enfance, Francis Cabrel et Gauvin Serre.
On l'arrache de son lit, l'enfant de Somalie, sans lui laisser le choix. Il aura dès demain un fusil dans les mains et du sang sur les doigts. C'est même pas un ado et ça fait froid dans le dos quand on sait par-dessus tout que les beaux marchands d'armes, les fabricants de larmes sont bien au chaud chez nous.
On la chasse de son pieu et l'empire du milieu la prendra sous son aile. Elle aura dès demain la fillette aux petites mains, une machine devant elle pour fabriquer bien sûr des poupées, des chaussures qui feront des tas de jaloux quand les immenses cargos tassés comme des Legos arriveront jusqu'à nous.
Nous deux, on en a eu de la chance d'avoir décroché l'innocence au grand loto de la naissance.
On a manqué de rien, tu penses? On a côtoyé l'insouciance sur le boulevard de l'enfance.
On le recrute au berceau, le gosse de Mexico et sa grande sœur de vie. Faudra dès demain écouler en sous-main de la drôle de farine.
Et puis rester fidèle au patron du cartel, le roi de la poudre blanche, celle qu'on sniffe à Paname en trouvant ça infâme, les guerres que ça déclenche.
On la tire de ses draps, la môme qui vient de là où les yeux bleus fourmillent.
Elle aura dès demain un petit sac à main, mais plus de nom de famille.
On lui demandera face à la caméra de poser sans arrêt,
pour que dans 5 secondes des hommes au bout du monde
la désirent en secret. Nous deux, on en a eu de la chance d'avoir décroché l'innocence au grand loto de la naissance. On a manqué de rien, tu penses? On a baigné dans l'insouciance sur le boulevard de l'enfance. Nous deux, on a grandi en France, on en a eu de la chance au grand loto de la naissance.
Manquer de rien, tu penses, sur le boulevard de l'enfance.
On a manqué de rien, tu penses, sur le boulevard de l'enfance.
On a manqué de rien, tu penses, sur le boulevard de l'enfance.
Nous sommes toujours sur AOC 103.7 et les chemins de traverse, hein, avec Francis Cabrel et Gauvin Serre qui nous parlaient du boulevard de l'enfance. Un boulevard de l'enfance qui a été plus ou moins long, hein, certains, pour certains d'entre nous. Je suis avec Jean-Pierre Scherrer pour parler d'agronomie, pour parler de botanique. Sans vouloir être méchant et discret, Jean-Pierre, vous avez un certain âge. Et on peut se poser la question, ce qui vous amène aujourd'hui encore à vouloir justement enseigner, transmettre, hein.
Alors c'est déjà, c'est un domaine dans lequel on ne rencontre que des gens sympas.
Oui, déjà.
Il faut le préciser. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment vraiment de stress hein, dans ce domaine-là. On rencontre des gens ouverts, curieux, qui ont des connaissances et veulent les rafraîchir, ou des gens qui veulent totalement découvrir. Donc c'est quelque chose de très très positif, c'est une source d'émerveillement. On fait de belles rencontres hein, dans ces domaines-là. On est dehors et puis c'est beau de voir la curiosité que peuvent avoir les gens sur ces domaines botaniques. C'est vraiment très beau.
Exactement. On se dit par contre que vous pourriez très bien vouloir cultiver vos rosiers ou votre jardin. Tiens, on parlera tout à l'heure du jardin, on arrive bientôt en saison. Maintenant, mais qu'est-ce qui amène vous avez des collègues, des gens comme ça qui dans le même domaine que vous
ou... Alors malheureusement non, c'est-à-dire que je ne peux pas si je ne pouvais pas aller quelque part pour X raisons, je ne pourrais pas proposer de remplaçant malheureusement. Donc on arrive toujours à trouver des dates pour que les formations, conférences, interventions puissent se réaliser. Mais effectivement, j'ai pas vraiment de plan B à proposer, malheureusement.
Ça me permet tiens, de resaluer encore une fois Catherine Oublier, oui, hein, qui elle aussi n'a pas de plan B, puisqu'elle est calligraphe de cinéma. Je crois qu'elle est la seule d'ailleurs à le faire.
Oui, hein, c'est unique. Hein, l'activité qu'elle a, c'est absolument magnifique. Hein.
C'est unique, un peu comme vous, qui voyagez beaucoup, qui d'ailleurs avait un module de master, je crois, du côté de Barcelone.
C'est à ça l'université de Barcelone, oui. Ouais,
depuis maintenant combien d'années
Je pense 26 ou 27 ans, je sais plus.
Ah, vous avez vu grandir la Sagrada Familia, forcément.
Alors oui, je la regarde de loin parce que j'y vais, je vous disais, dans un contexte de formation, un contexte très très humain, parce que je rencontre énormément de gens hyper motivés et donc je passe beaucoup de temps, bah, bien sûr, à transmettre hein, sur la formation, moitié sol, moitié salle, moitié terrain. Donc c'est quelque chose de très très occupant, mais très agréable aussi.
Vous transmettez en espagnol, en français, en anglais ?
Alors en espagnol, je dirais en castillan, hein, parce qu'à la fac de Barcelone, tout est en catalan. Et quand vous arrivez là-bas, vous ne dites pas « je vais vous parler en espagnol », ils vous reprennent en disant « ce n'est pas de l'espagnol, c'est du castillan ».
D'accord, bah écoutez, moi je vous parlerai pas en espagnol, je crois que le seul mot que je connaisse en espagnol, c'est ma traversée hein, de l'Espagne pour aller au Maroc à l'époque, c'était Café con leche, je crois.
Oui, Café voilà. con leche, voilà. Mais ouais. Comme j'interviens dans toute l'Espagne, bah, chaque province espagnole a ses accents aussi, ses façons de parler, et donc bah, faut s'y adapter, voilà.
Vous allez régulièrement à Barcelone pour ces modules ?
Tous les ans, oui.
Tous les ans, une fois par an pour.
Au moins une fois par an, voilà, jusqu'à six fois par an. Ça dépend des demandes.
Les Espagnols sont aussi sensibles que nous, justement, à tout ce qui est environnement aujourd'hui. Ils ont des pas mal de problèmes aussi. Le sol est peut-être plus aride encore que chez
nous. Des contextes climatiques particuliers, des contextes d'organisation agricole différentes. Hein. Ils n'ont pas de chambre d'agriculture comme nous, malheureusement. Ils n'ont pas de CIVAM comme chez nous, voilà.
D'accord. L'intérêt justement de ces chambres d'agriculture, puisque vous en parlez, c'est il y a véritablement un intérêt, c'est pas seulement une réunion de professionnels.
Alors l'intérêt, vous voulez, ça fait partie des organismes pour lesquels je travaille, hein, c'est-à-dire des CIVAM, des GAB, des chambres d'agriculture, des syndicats des eaux, des CUMA qui vont me demander des prestations. Et bah, l'intérêt, c'est qu'ils vont réunir hein, des groupes d'agriculteurs motivés par les mêmes préoccupations, les mêmes questions, et donc qui vont permettre à ces formations d'avoir lieu, financées par du VIVEA. Donc ça, c'est quelque chose que le monde entier nous envie. Et des organisations qui n'existent pas vraiment en Espagne, où les conseils sont des conseils privés.
On a aujourd'hui, on le voit, tous envie de la même chose. Hein, le printemps arrive, oui. On a déjà envie de pratiquement ce qu'on appellerait des fruits de saison ou des légumes de saison qui n'existent pas. Hein, la tomate même française n'a pas de goût. C'est vrai que c'est assez compliqué de ce côté-là aujourd'hui de satisfaire tout le monde. On a d'un côté une demande du consommateur qui veut avoir des fruits ou des fleurs, même pourquoi pas de avant l'heure. Ça, c'est les domaines que vous abordez justement par rapport aux agriculteurs.
Non, pas vraiment. Pas vraiment. Moi, j'interviens vraiment sur les domaines agronomiques, voilà, pas l'organisation du marché, mais c'est toujours très touchant, très émouvant de voir au marché de Chauvigny, où j'étais il y a encore une heure, de voir les gens qui repartent avec des plants, avec plein de variétés différentes, et qui vont avoir le grand plaisir de goûter la diversité des saveurs de toutes ces variétés dans le domaine des tomates, des courgettes, etc.
Exactement. On arrive en période de préparation, en tout cas des sols hein, pour le jardin. Si on devait préparer le sol, on commencerait par quoi là aujourd'hui ? Ce serait commencer à bêcher forcément, à labourer
Alors, le préparer, pourquoi pas ? Déjà pour faire exprimer les éventuels adventistes hein, dont on parlait tout à l'heure, qui vont s'exprimer, voir qu'est-ce qui va pousser, et puis enrichir le sol, vous évoquiez ce terme-là, en matière organique, mais ça, c'est pas au dernier moment que ça se fait. Normalement, ça se fait déjà depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois pour amender son sol en organique. Ici, dans le secteur, on a quand même des sols qui ont un bon niveau de fertilité. Ça s'entretient essentiellement par de l'organique, par du minéral.
Et l'idée ensuite, donc on prépare son sol tranquillement, les premières plantations véritablement en terre, c'est peut-être pas encore le moment.
Alors, plus tôt, peut-être. Encore une fois, Tout le monde vous évoquera les seins de glace, les fameux seins de glace qui sont dans 4 semaines. Je pense que on les a déjà eus, ces seins de glace, hein, avec quelques petites gelées encore en début de semaine. Donc certains se risquent à déjà planter. Hein, quand il fait des belles journées comme en ce moment, ça donne vraiment envie de voir notre jardin avec des plants, des choses qu'on va commencer à arroser régulièrement. Voilà, c'est le plaisir du jardin.
Exactement, un plaisir que vous prenez-vous de temps en temps, peut-être, non?
Oh bah, bien sûr, chez moi.
Vous avez encore le temps, quand même, de le faire. On voit que vous êtes pas mal occupé, quand même.
Oui, mais bon, pour moi, il y a des périodes assez calmes qui vont succéder des périodes extrêmement chargées. Là, les 2 semaines à venir vont être non-stop pour moi. Je vais être 4 jours à Venours et ensuite 8 jours au Pays Basque pour diverses interventions. Donc, 2 semaines non-stop, des week-ends avec des animations, conférences, sorties botaniques. Mais il y aura des périodes très calmes aussi. Hein, donc, non, j'ai pas à me plaindre.
Donc à ce moment-là, c'est le jardin qui prend le dessus et puis la vie de famille forcément, je suppose.
Bien sûr.
Voilà. Donc le jardin, qu'est-ce que si on voulait commencer à planter aujourd'hui, la plante à planter sans trop de risques, sans trop de risques en extérieur. Alors la tomate, c'est peut-être un peu risqué pour nos amis jardiniers, mais.
Alors faut penser aux plantes aromatiques. Ouais. C'est-à-dire que bien sûr, hein, il y a les légumes hein, de saison, mais les aromatiques. Hein, l'hiver étant derrière nous, hein, les dernières gelées, je pense, étaient derrière nous. Certaines plantes qui sont délicieuses, je pense à la verveine odorante, je pense à la marjolaine, auxquelles on ne pense pas toujours, sont des plantes qu'on aura un énorme plaisir à avoir dans son jardin, à les regarder, à les sentir, à les goûter, pour faire différentes choses, et c'est vraiment un très très bon moment pour les mettre en place.
Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile en fait de planter hein, d'une année à l'autre. On est obligé d'acheter nos graines pratiquement. Hein. C'est difficile de faire soi-même ses propres graines. On voit que les semenciers ont pris le dessus. On voit que les laboratoires aussi, hein, comme anciennement Monsanto ou Bayer, pour les pesticides, c'est pareil. On a pratiquement plus le droit de faire nos propres pesticides. Ça nous permet de parler un peu de l'agriculture en général, hein, des différents modes d'agriculture. On a l'agriculture conventionnelle, on a l'agriculture intensive, on a celle qui est plus intéressée par la bio en fait. Ces trois agricultures peuvent vivre ensemble, peuvent cohabiter.
Alors, j'ai envie de dire, moi, quand j'interviens, peu m'importe de savoir si les gens sont en bio ou en conventionnel intensif. Ce qui m'importe, c'est le sol qu'ils vont cultiver, avec l'idée que le niveau de fertilité soit entretenu, soit maintenu et soit durable. C'est-à-dire que il y a une considération à prendre sur le sol dans sa globalité, qui ne se gère pas à coup d'engrais minéraux et de pesticides, parce que là, on aura quelque chose d'assez peu durable. Donc, moi, l'important, quand je rencontre des agriculteurs, c'est que ils soient eux-mêmes en bonne santé, et que si j'ai l'occasion de les revoir 5 ans, 10 ans plus tard, qu'ils soient encore là et qu'ils soient encore en bonne santé, avec des sols qui progressivement s'améliorent, c'est ça qui va compter pour moi. Donc je ne serai pas donneur de leçons.
Voilà, en bonne santé, c'est les produits qu'on a pu utiliser à une époque qui aujourd'hui peut-être sont moins utilisés.
Peu m'importe, hein, les produits qu'ils utilisent. Pour moi, l'important, c'est que le sol fonctionne bien sur un plan structure, sur un plan physique, sur un plan organique, biologique et microbien, parce que ce sera beaucoup plus rentable de toute façon, à long terme.
On a au niveau de l'alimentation, justement, cette indépendance possible. En France, on est 68 millions. Hein. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de faire de la culture. On voit que c'est un peu compliqué. On peut avoir cette indépendance alimentaire sans espérer aller chercher.
Après, il y a une dimension économique hein, qui fait que certains produits agricoles vont être des produits d'exportation, des produits de spéculation. D'autres produits vont être à vocation vivrière, c'est-à-dire nourrir la population en France. Mais voilà, il y a des contextes économiques et politiques hein, qui fait que on exporte des choses. On pourrait se dire, mais on pourrait en produire davantage chez nous pour nourrir la population. On importe des choses qu'on pourrait faire pousser nous-mêmes, mais là, ce sont des contextes qui m'échappent totalement. Hein. C'est les dimensions d'accords politiques et économiques.
On parlait d'agronomie, on parlait de biologie, enfin de botanique, pardon. On a parlé en début d'émission de climat. Oui. On a dit que vous étiez un climato-optimiste plutôt. Oui. Justement, par rapport à ça, on a vu le climat changer, quand même évoluer depuis des années.
Alors, oui, énormément. C'est-à-dire que, moi, quand je suis arrivé dans la région, hein, je me souviens que j'avais regardé les statistiques météorologiques hein, qui disaient qu'il pleuvait tous les mois au moins 40 mm. Mmh. Et à la fin de l'année, on a un cumul qui ressemble à la moyenne habituelle, sauf que la répartition n'est plus du tout la même. Et c'est ça qui est préoccupant, parce que nous, on a eu une surabondance d'eau au mois de février. Et là, j'en parlais ce matin avec les jardiniers au jardin de Chauvigny, au marché de Chauvigny, pardon. Et c'est vrai que c'est sec, on arrose, on commence à arroser dès maintenant. On On est quand même mi-avril, on attend les pluies, on sait que ce qui va tomber ne sera pas 100% efficace parce qu'une partie va s'évaporer, une autre partie sera immédiatement prélevée par les plantes au détriment des réserves dans les sols. Effectivement, ça peut être préoccupant.
On va bientôt se quitter, les 57 pour nous ici à Chauvigny. On parlait tout à l'heure d'orties, je parlais d'un livre sur les orties. Vous écrivez, vous êtes un auteur ?
Ah, j'adore écrire. Ouais. C'est même le mode d'expression qui m'est le plus agréable. Et donc, j'ai écrit plusieurs livres, mais pas seulement sur les plantes. Hein. Voilà, c'est le principe d'écriture. J'écris des articles, j'écris des bouts de chapitres pour des livres. L'écriture, ça ne me gêne pas.
Pour vous, des collaborations ou autres ?
Oui. Oui. En général, c'est des choses qui me sont demandées.
Des revues scientifiques.
Et l'expression écrite me convient bien.
Bah écoutez, je vous remercie. On aura dans quelques semaines, Alexandre Jardin, qui est un auteur bien connu.
Oui.
On parlera avec lui d'illettrisme. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours. On parlera d'illettrisme. On fait une émission spéciale sur ça, sur le comportement à adopter par rapport aux enfants, par rapport aux adultes aussi, hein, qui souffrent d'illettrisme. On fera aussi une émission, tiens, je le dis, dans les semaines à venir, avec Davina. Vous êtes comme moi, on a un certain âge.
Oui, bien sûr.
Davina,
bien sûr.
Davina.
Bien sûr.
Davina reviendra. Elle est déjà venue deux fois dans notre émission. Elle viendra nous présenter un petit coffret là, d'ici quelques temps. On aura aussi, dans les émissions à venir, Anthony Brottier, hein, je salue son élection en tant que maire de Poitiers, bien sûr, mais en tant que président de Grand Poitiers aujourd'hui. Il sera là dans quelques semaines parmi nous. On aura aussi Virginie Puchot, maire de Chauvigny, Pascal Bonaventure pour Saint-Savin et Éric Pfeffer qui viendront tous les trois, normalement, ensemble nous parler du Triangle d'Or du Poitou qui sera inauguré, d'ailleurs, je le dis, le 12 septembre prochain, le Triangle d'Or du Poitou, pour si vous vous intéressez au patrimoine, c'est ce secteur avec l'abbaye de Saint-Savin classée au patrimoine mondial. C'est la cité chauvinoise, hein, avec cette cité médiévale. Et puis, c'est le Roc aux Sorciers, donc à Angles-sur-Anglin, un Roc aux Sorciers qui est ouvert d'ailleurs au public toute l'année, enfin une partie de l'année en tout cas, mais surtout en ce moment, puisqu'on a un Terraventura qui se fait dans le secteur. Ça vous permet de visiter en même temps la forteresse pour 6 €. Vous visitez les deux, un très bel endroit. Je crois qu'il y a 3 ou 4 000 personnes déjà qui y sont allées depuis une quinzaine de jours. On aura aussi Béatrice Guillonnet, hein, qui viendra nous parler de la CCVG, du programme de la CCVG. Jean-Pierre Scherrer, merci d'être venu.
Avec plaisir.
Merci, je vous dis à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Dans une ville où je passais, bien au nord du mois de juillet, sur un grand lac, un lac gelé, un homme en noir glissait. Il avait un drôle d'habit noir qui avait dû faire des grands soirs de l'Autriche et de la Hongrie quand elles s'étaient réunies. C'était un échassier bizarre, il ne sort pas de ma mémoire. Sur une jambe et jusqu'au soir, il glissait là sur son miroir. Il patinait. Et puis la nuit est arrivée, il lui a fallu s'arrêter, car les enfants devaient rentrer, le spectacle était terminé. Une belle femme aux cheveux blancs est venue vers lui gentiment, mettre une canne dans sa main et un long manteau sur ses reins. C'était un échassier bizarre, il ne sort pas de ma mémoire. Sur une jambe et jusqu'au soir, il glissait là sur son miroir. Il patinait. Il patinait. Sur une jambe, il patinait. Une ville où je passais, bien au nord du mois de juillet, sur un grand lac, un lac gelé, un homme en noir boitait. Il patinait. Il patinait. Sur une jambe, il patinait.
Les chemins de traverse.
rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins traversent sur REC 103.7, animé par Francis.